Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Christophe Castaner, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, député des Alpes de Haute-Provence. Revenons sur la déclaration assez solennelle hier soir d'Emmanuel Macron. Il avait perdu sa voix. Vous l'avez remarqué, non? Il était enroué, enrhumé.
Il avait une voix plus grave qu'à l'accoutumée, effectivement.
Oui. Bon.
J'ai vu que ça faisait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux.
Oui, ça fait réagir.
Changé avec lui hier soir. Il va bien, rassurez-vous.
Il va bien. Bon. La cinquième vague a commencé, c'est ce qu'il nous disait hier soir. Taux d'incidence en augmentation de 40% en une semaine. Il a lancé un grand appel à la vaccination. 6 millions de plus de 12 ans qui n'ont reçu aucune dose pour l'instant et qui doivent, nous a-t-il dit, qui doivent se faire vacciner. Le 15 décembre, je vais vous demander quelques précisions. Le 15 décembre, j'ai plus de 65 ans. Si je n'ai pas reçu une troisième dose, un rappel, mon passe sanitaire ne sera plus valable. C'est bien cela.
Avec la précision des 6 mois, qui fait qu'au bout de 6 mois, après avoir été vacciné pour la dernière fois, vous recevez, c'est déjà le cas aujourd'hui, quand vous êtes dans le public cible, vous recevez un courrier qui vous rappelle la date à partir de laquelle il convient de se faire vacciner. Le président de la République a annoncé effectivement qu'hier que le rappel serait intégré dans la validité du pass sanitaire
à partir
pour
du 15
ce public-là.
Pour ce public-là, les plus de 65 ans. Même vacciné 2 doses depuis moins de 6 mois?
Non, parce que justement, on va prendre en compte le fait que le délai de 6 mois peut glisser. Et si c'est le 22 décembre, on vous dira, le 22 décembre, dans les jours qui suivent le 22 décembre, allez vous faire vacciner.
La date de vaccination, sa deuxième dose, et calculer 6 mois après pour voir si son passe sanitaire est valable ou pas.
Et comme vous avez téléchargé l'application Stop Covid, vous avez toutes ces informations dessus.
Bon, troisième dose obligatoire pour les soignants ou pas ?
La question aujourd'hui se pose naturellement parce qu'on voit, et ce sont des soignants, des professionnels de santé, des scientifiques
de santé,
qui indiquent qu'on a, au bout de 6 mois, une perte qui est différente pour vous, pour moi, en fonction de son propre vécu par rapport à la maladie, si vous avez eu la Covid ou pas. Et donc, évidemment, il faut se faire vacciner.
Obligatoire ? Est-ce qu'elle sera rendue obligatoire, cette troisième dose ?
Le président ne l'a pas précisé, ça me paraît d'évidence.
Ça vous paraît évident ?
Ça me paraît d'évidence.
Pour tout le personnel soignant.
Oui, parce que c'est pour protéger à la fois les personnels soignants, mais aussi l'ensemble de ceux qui viennent à l'hôpital, qui sont fragiles souvent quand on est à l'hôpital et qui ont besoin d'avoir cette surprotection.
À partir de début décembre, troisième dose possible pour les 50-64 ans. Nouvelle tranche d'âge. Là encore, est-ce que le pass sanitaire sera conditionné à la troisième dose?
Ça n'est pas décidé pour le moment, parce que le président l'a rappelé, on a sollicité les autorités sanitaires pour qu'elles nous donnent un éclairage. Elles ne l'ont pas encore fait sur ce public-là. Elles l'ont fait sur les plus de 65 ans, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a un retour dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, de personnes qui n'étaient pas là parce qu'elles étaient très vaccinées, et donc qui reviennent aujourd'hui. Ensuite, ce sont les autorités sanitaires qui nous donnent cet éclairage, et la décision politique vient après.
Bien, à partir de lundi prochain, port du masque obligatoire dans toutes les écoles. Les écoles, hein, pas les collèges-lycées. Écoles, bien. Les directeurs d'école, j'ai vu la décision du Conseil constitutionnel, vous l'avez vu comme moi. Les directeurs d'école, les principaux de collège, les proviseurs de lycée ne pourront pas connaître le statut vaccinal des élèves. Vous le regrettez ?
Je le regrette parce que c'était pas une mesure pour dévoyer le secret médical. Mais aujourd'hui, quand il y a un cas de Covid dans une classe, le directeur de l'école va demander aux parents de faire une déclaration sur l'honneur que l'enfant n'a pas la Covid, etc., qu'il a été contrôlé.
Oui.
Et donc, si ça arrive une fois, deux fois, 10 fois, il va le faire à chaque fois.
Oui.
Nous avions proposé, c'est un amendement du gouvernement que nous avons voté, que les directeurs puissent avoir l'information de savoir si l'enfant est dans un processus vaccinal ou pas. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement, dont acte. Et nous ne reviendrons pas sur cette décision.
Vous ne reviendrez pas sur ce texte?
Non.
Sur ce texte. Bien. Hier, le PGE, un mot sur le PGE, prolongé jusqu'en juin 2022. Juin 2022, ça va, ça va soulager certains chefs d'entreprise, j'imagine.
Pas tous, parce que certains ont déjà commencé à rembourser leur PGE.
Oui, j'ai vu 16% des PGE qui avaient été remboursés.
Qui avaient déjà été remboursés. Certains le gardent en trésorerie parce que ça renforce leur bilan. Tout ça est bien. L'objectif est qu'évidemment, ça accompagne pendant un temps nos entreprises. On l'a mis en place au plus fort de la crise. Il ne faut pas qu'il y ait de brutalité dans la sortie. Il y avait déjà eu un report. Il y a un second report aujourd'hui. Mais c'est pour prendre en compte les besoins de notre économie. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la reprise forte que nous connaissons, il y a aussi dans toutes nos entreprises ce besoin d'investir. Et c'est tant mieux parce que ça crée de l'emploi.
Alors hier soir, un tiers consacré à la crise sanitaire, deux tiers consacrés aux réformes déjà réalisées et aux réformes à engager, et une insistance sur le travail. Le président de la République a beaucoup parlé de travail, objectif plein emploi, le chômage est en forte baisse, mais paradoxe, manque de main-d'œuvre et encore 3 millions de chômeurs. Alors comment faire ? Comment faire ?
D'abord, rappelez que c'est le fil rouge du quinquennat d'Emmanuel Macron. Dès les premiers mois, les ordonnances travail, la volonté de faire en sorte que le droit du travail ne soit pas une sorte de carcan dans lequel on est enfermé, mais soit plutôt celle qui permet la liberté d'accéder au travail. Quand on parle du pouvoir d'achat, la meilleure mesure en faveur du pouvoir d'achat, c'est que quelqu'un trouve un travail. Donc depuis 5 ans, nous avons travaillé sur ce sujet et nous avons récemment modifié le régime de l'allocation au chômage aussi pour faire en sorte que les contrats courts s'arrêtent et qu'on favorise l'accès au travail. Ça rentre en vigueur progressivement, c'est rentré au 1er octobre, ça se poursuivra au 1er décembre. C'est une façon d'aller vers le travail. Mais de la même façon, la formation. Oui. De la même façon, le fait de prendre en main quelqu'un pour l'amener vers le travail. C'est la différence entre ceux qui pensent qu'il faut donner une allocation, un RSA jeune, et ceux qui pensent qu'il faut au contraire faire en sorte qu'il y ait du donnant-donnant, et des droits et des devoirs,
très
c'est ce
bien,
que nous faisons.
Très bien, le chômage a baissé, mais le paradoxe est toujours là. Alors, manque de main-d'œuvre et 3 millions de chômeurs. Alors, hier soir, le président de la République a dit les allocations seront suspendues si pas de recherche. Mais ça, c'est déjà la loi. C'est déjà dans la loi.
Oui, mais vous savez comme moi que c'est une loi ancienne et qui n'est pas toujours mise en vigueur et qui était d'autant plus difficile que nous étions sur un marché en tension. Vous savez, faire le reproche aux chômeurs qu'ils ne cherchent pas assez quand de toute façon il a envoyé 400 CV et qu'il a eu 400 réponses négatives quand on lui a répondu, c'est injuste. Mais dans un contexte où aujourd'hui qu'on voit sur plein de secteurs où on a besoin de main-d'œuvre, vous le voyez dans vos terres de Cévennes, je le vois dans mes Alpes de Haute-Provence, on sait ces besoins-là. Et donc, il nous faut d'abord donner les moyens, c'est le plan de formation, c'est ce que nous faisons avec un dispositif comme Un Jeune, une solution qui a permis d'accompagner 3 millions de jeunes vers l'emploi, vers une formation pérenne et donc vers un avenir. Et donc, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est d'accompagner vers l'emploi, et notamment partout où il y a des gisements d'emploi, et ils sont nombreux aujourd'hui, c'est tant mieux, mais c'est insupportable. Quand moi je me déplace et que je rencontre un chef d'entreprise qui me dit, j'ai 4 CDI ouverts dans de bonnes conditions de rémunération, je ne trouve personne.
Alors, est-ce qu'il faut relancer l'immigration qualifiée ? Je vous dis ça parce que le Conseil d'analyse économique, qui dépend de Matignon, le dit qu'on a besoin de cette immigration-là et propose même un système à points un peu. Comme en Grande-Bretagne ou au Canada.
Alors, on
ce sera
besoin,
un bon système.
Mais depuis 40-50 ans dans notre pays, on a besoin d'une immigration qui vient. Je suis d'une terre agricole et je sais aussi l'importance de la main-d'œuvre agricole, par exemple. Et quand j'étais ministre de l'Intérieur en charge de la gestion des entrées dans le pays pour le premier confinement, j'ai souvenir de ces difficultés générées par le blocage de nos frontières, notamment dans le monde agricole, où on a des récoltes qui étaient perdues. Donc oui, nous avons besoin, nous ne devons pas avoir peur d'une immigration qualifiés qui viennent pour renforcer notre capacité de faire. Et il ne faut pas avoir peur de l'immigration. D'abord, il y a celle qui est liée à l'éthique même de notre pays, celle de protéger les réfugiés. On a beaucoup parlé de l'Afghanistan, nous l'avons fait avec l'Afghanistan. Mais donc, c'est protéger les réfugiés, faire en sorte que les besoins soient renforcés par une immigration choisie et faire en sorte enfin et surtout que celles et ceux qui viennent en France et qui n'ont pas vocation à y rester ne restent pas dans notre pays.
C'est un équilibre que nous devons trouver. Serait un bon système en France applicable ou
c'est pas notre culture et je suis pas là moi pour décider ce qui est bon ou pas. C'est pas notre culture en France. Mais je crois qu'effectivement il faut avoir un discours clair sur ce sujet. Nous ne devons pas aujourd'hui dire toute personne qui vient en France est la bienvenue, quelles que soient les conditions avec lesquelles il arrive en France, même si c'est de façon irrégulière. Ça n'est pas acceptable. Nous devons protéger ce que nous devons protéger, nous devons former ce que nous accueillons et mieux les intégrer, mais nous devons faire en sorte que, pour certains pays, quand j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, les deux premiers pays d'origine migratoire avec des demandes de statut de réfugié, c'était la Géorgie et l'Albanie. ça n'était pas acceptable parce que ce sont deux pays d'origine sûre. Et c'était les deux premiers pays de demande de protection. J'ai fait en sorte, en travaillant avec ces pays, qu'aujourd'hui, ce qui était le premier et le deuxième pays d'origine soit le 11e ou 12e aujourd'hui. Parce que nous avons organisé un système pour mettre un terme à ces flux migratoires qui n'avaient pas de sens en termes de protection. Mais s'il y a une personne parmi eux qui a besoin d'être protégée, nous devons la protéger.
Mais est-ce que les menaces sur les visas, je pense à ce qui se passe avec l'Algérie, avec le Maroc, est-ce que ça marche? Franchement, est-ce que ça marche?
Vous savez, c'est de la diplomatie. La diplomatie, c'est un temps long. Oui. Moi, j'ai utilisé aussi à Beauvau la menace sur les visas. Gérald Darmanin a raison de le faire. Quand un pays ne joue pas la coopération, il faut effectivement commencer par dire on va menacer les visas. Il y a même, on va menacer les visas diplomatiques. Oui. C'est-à-dire de celles et ceux qui prennent les décisions et qui ont l'habitude de voyager plus facilement. Il faut aussi oser poser ce problème-là.
Il y a des résultats.
Et le ministre de l'Intérieur a raison de le poser.
Il y a des résultats.
C'est assez récent comme dispositif. Il y en a eu quand ça a déjà été fait. Je ne doute pas que ça en aura.
Bien. Le travail, pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, soit 170 euros de pouvoir d'achat en plus pour une personne au SMIC depuis 2017, dites-vous, ça c'est ce que vous dites, mais dans la réalité...
Ça a été confirmé.
Oui, ça a été confirmé, oui, non mais d'accord, mais enfin, dans la réalité, pourquoi, alors je vous pose la question, pourquoi tant de femmes et d'hommes ont-ils tant de difficultés à boucler la fin de mois? Ont-ils tant de difficultés à ne pas être... à la banque.
À la fois l'affirmation et la question est bonne. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, un salarié au niveau du SMIC a connu une croissance de son pouvoir d'achat de 170 euros. C'est énorme par rapport au SMIC. Mais la réalité, c'est qu'il était en galère, déjà, quand il était au SMIC, et qu'il reste en galère.
Mais il est toujours en galère. Euros.
Oui, je vous le confirme. Et donc, on ne va pas lui dire, tu t'es trompé, tu as tort, tu ne t'es pas aperçu de l'augmentation du pouvoir d'achat. Mais nous le faisons, nous l'avons fait, et nous devons continuer à le faire. Et nous devons faire en sorte que, pour le pouvoir d'achat, la meilleure ressource, ce soit celle du travail. Quand vous trouvez un travail...
Condition d'être bien payé.
La question, oui.
Et de ne pas être en contrat précaire.
Alors, nous luttons aussi, la réforme de l'allocation chômage, c'est pour lutter contre l'explosion qu'on a connue dans notre pays des contrats précaires. Et aujourd'hui, les tensions qui existent sur le marché du travail font que les employeurs eux-mêmes, et j'ai entendu le président du MEDEF le confirmer, devront aussi revaloriser les salaires. Dans la restauration, dans les bars, par exemple, qui sont des sujets de tension en matière d'emploi, aujourd'hui, les offres s'améliorent. J'étais à Bordeaux il y a quelques jours, j'ai rencontré un restaurateur qui me disait les propositions qu'il était amené à faire. Il y a une vraie valorisation. Je serai à Lille tout à l'heure, dans le cadre d'un Tour de France territorial que je fais, aussi sur ces questions d'emploi, et je ne doute pas que j'entendrai cela. Mais j'entendrai aussi des chefs d'entreprise me disant « Moi, j'en ai marre d'avoir des gens qui viennent pour recharger. » C'est-à-dire recharger des droits au chômage. Et c'est aussi pour cela que nous faisons en sorte de réformer l'allocation chômage.
La réforme des retraites, il n'y en aura pas avant la fin du quinquennat. Pas de relance de la réforme. Des décisions seront claires. Des décisions claires seront prises dès 2022, a dit hier soir le président de la République. Alors, il faudra travailler plus longtemps, il l'a dit. Mais 64 ans.
Vous savez, je pense que dans notre société, y compris avec le régime et le modèle social que nous avons, il n'y a qu'une seule source de financement. Alors certains vont nous dire, faut taxer les riches, c'est très bien, mais ça n'a pas de sens. C'est le travail que produit notre pays. Et donc effectivement, il faudra travailler plus dans notre pays. Et quand vous avez un vieillissement de la population...
On poussait l'âge légal de départ à la retraite.
Le président l'a mis clairement et sans se
cacher. Il l'a dit clairement hier soir.
Il l'a dit clairement sur ce sujet et nous devrons travailler. La campagne présidentielle nous servira
64
ans. Et nous donnera un mandat clair sur ce sujet. Le président n'a pas annoncé d'âge spécifique, mais... Il faut regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Nous avons des pays voisins où l'âge de départ à la retraite est à 67 ans. Et il faut regarder ce qui se passe en France. Aujourd'hui, vous avez énormément de gens qui, de toute façon, ne connaissent pas l'âge légal, sont obligés de travailler plus. Et bien souvent, ce sont des femmes qui ont connu des carrières hachées parce que leur vie a été faite de moments heureux comme la maternité, mais au moment de moments difficiles parce qu'elles ont suivi le conjoint, etc. Et donc, elles, quand on leur parle de l'âge légal de la retraite, elles savent que ça n'est pas vrai. Donc oui, faisons en sorte qu'il y ait une réforme plus juste, y compris pour elles, avec une retraite minimum de 1000 euros, et je pense que c'est indispensable.
Ce sera dans le programme du candidat Emmanuel Macron, s'il est candidat.
À n'en pas en douter, s'il est candidat.
S'il est candidat, ce sera dans son programme. Repousser l'âge légal de départ à la retraite.
On peut le dire comme ça, on peut aussi dire sauver. On peut aussi sauver le régime de retraite. Mais... Parce que dans un système où vous aviez...
Pour sauver le régime de retraite, selon vous, il faut repousser l'âge légal.
Notamment, c'est une réforme globale, il faut mettre fin aux régimes spéciaux. Parce qu'on était dans un système où vous aviez 4 travailleurs pour un retraité. Et nous serons bientôt dans un système où il y aura moins de 2 travailleurs, c'est déjà le cas, pour un retraité. Alors, et donc, nous devons sauver le régime de retraite.
Sur le nucléaire, une question que je me pose. La France va construire de nouveaux nouveaux réacteurs nucléaires, nous a dit le président de la République hier soir. Oui, mais il y a un objectif qui est de 50% d'électricité d'origine nucléaire en 2035. Alors, n'y a-t-il pas un paradoxe ?
Non, parce que...
C'est-à-dire qu'on va construire de nouveaux réacteurs et on va baisser, l'électricité d'origine nucléaire.
Notre objectif, c'est quoi ? C'est que la France se réindustrialise. Mmh. Pour se réindustrialiser, la France a besoin d'énergie. Et donc, et c'est RTE qui vient de présenter des scénarios jusqu'en 2050. Nous voyons qu'on a un besoin d'électricité plus important. Notre problème, c'est quoi ? C'est que nous sommes à la fois totalement dépendants de l'étranger, enfin trop dépendants de l'étranger, et que nous ne produisons pas toujours de la meilleure façon, c'est-à-dire de façon décarbonée. Mmh. Donc, dans le mix énergétique, il faut faire monter en puissance les énergies renouvelables. Il ne faut pas avoir peur du nucléaire, qui doit être renouvelé aussi et qui doit monter en puissance.
Donc, nous allons construire de nouveaux réacteurs.
Oui.
Mais pour baisser, pour revenir à 50%, il va falloir en fermer beaucoup, si j'ai bien compris.
Non, il faut pas en fermer. Il faut renouveler notre parc qui, pour certains cas, est vieillissant. Il faut assumer, comme nous l'avons fait, d'avoir fermé.
Et développer très fortement le renouvelable.
Les deux. Et nous savons la difficulté aussi de développer le renouvelable. Mmh. Chaque fois qu'une éolienne apparaît ou qu'un parc éolien apparaît, des mobilisations, même en mer, où l'impact semble assez modéré, on a des mobilisations, on sait que ça prend du temps. Donc soit on regarde les trains passer, et puis on se dit, le nucléaire, on n'en parle pas parce que c'est un sujet qui serait peut-être tabou, et à ce moment-là, nous serons dans une impasse. C'est-à-dire que nous serons incapables de ramener de l'économie et donc de l'emploi dans notre pays, et nous serons même nous-mêmes, comme consommateurs, en difficulté. Donc oui, le mix énergétique, c'est l'équilibre entre les deux, et ça implique de monter en puissance sur les deux champs, dont le nucléaire, et ça n'est pas pour nous un sujet tabou, et c'est surtout ce qui nous permet de renforcer notre autonomie internationale. Et quand on parle du coût de l'énergie et qu'on s'inquiète du coût de l'énergie, il faut se poser la question de savoir qu'on est dépendant. Regardez ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne a fermé tout son parc nucléaire, dont acte, aujourd'hui développe des centrales à gaz qui confortent sa non-dépendance et qui sont 50 fois plus polluantes en matière de décarbonation que l'énergie nucléaire. Je pense que le choix nucléaire est un bon choix, nous le défendons.
Bien, le nouveau Parti démocrate, vous avez entendu parler de ce nouveau Parti démocrate voulu par Richard Ferrand, François Bayrou, c'est pour quand ?
Oh, je ne sais pas quel sera ce nom, je ne suis pas sûr que ce soit ce nom, mais notre idée, c'est d'avoir un rassemblement, quand d'ailleurs on voit tous les autres se séparer, et donc notre objectif est qu'avant Noël, nous puissions...
Avant Noël.
Oui, je sais que Richard Ferrand, en particulier, il travaille avec François Bayrou, avec Édouard Philippe, et nous serons
avec
demain...
Avec Édouard Philippe aussi.
Mais bien sûr que nous travaillons avec Édouard, qui s'est engagé pleinement en faveur du président de la République, qui a été, vous savez, le chef de la majorité. Il était le chef de la majorité que je préside aujourd'hui.
Donc c'est
aujourd'hui
une nouvelle majorité présidentielle que vous construisez.
C'est un élargissement, mais surtout c'est un rassemblement. Oui. Quand on voit les uns et les autres se déchirer pour des querelles d'égo, on voit là un mouvement politique qui travaille avec un autre mouvement politique pour conforter ce qui fait l'ADN de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'élargissement politique.
Et est-ce que vous serez candidat aux législatives ?
C'est sûrement.
Au printemps. Dans votre circonscription ?
Je le souhaite, mais chaque chose
vous,
on s'entend
donc.
Chez moi. Et j'aime bien ce « moi » possessif.
Non, mais chez vous.
Je le revendique dans mes actes de Provence. Mais chaque chose en son temps. D'abord, il y a une élection présidentielle, il y a ensuite une élection législative. Ben,
chez vous, où l'on pratique la chasse traditionnelle ?
Et notamment où l'on pratiquait la chasse à la glu.
La chasse à la glu.
Qui n'est plus autorisée aujourd'hui. J'ai de nombreux amis qui m'ont enguirlandé sur ce sujet. Mais nous avons un problème, c'est que la chasse à la glu, qui concerne assez peu de grives qui sont piégées, n'est pas une chasse sélective. C'est-à-dire que d'ailleurs, on ne chasse pas la glu. On attrape des grives pour en faire des aplans, pour ensuite chasser la grive. La difficulté que nous avons, c'est que avec la glu, on peut attraper n'importe quel oiseau. Et donc, le cadre législatif aujourd'hui, mais je crois aussi l'attention des Français sur ces sujets fait que cette chasse ne peut plus perdurer. Je le regrette en termes de tradition, je ne le regrette pas pour les animaux qui seront sauvés dans ce cadre-là, mais travaillons sur d'autres sujets. Moi, je suis assez fier de porter actuellement, elle va aboutir, une proposition de loi de mon mouvement politique, de mon groupe politique, pour combattre la maltraitance animale. Mmh. Et donc, nous avons des avancées aussi sur ces sujets, et il faut adapter.
Elle sera votée avant la fin de l'année ?
Bien sûr, oui, elle sera adoptée dans les jours qui viennent.
Dans les jours qui viennent. Bien, je termine avec la loi allongeant le délai de l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. Sera-t-elle présentée avant la fin du mois de novembre à l'Assemblée nationale ?
Elle est présentée dans la semaine qui chevauche la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. Donc oui, elle sera présentée.
Fin novembre, début décembre. Oui. Elle sera présentée à l'Assemblée nationale et adoptée par votre groupe.
Elle sera portée par mon groupe, même si c'est une PPL dont nous ne sommes pas à l'origine.
Oui, je sais.
Mais je pense que c'est une PPL importante qui donne des droits nouveaux, mais surtout
malgré l'avis défavorable d'Emmanuel Macron.
Oui, mais vous pensez bien que j'ai échangé avec le président sur ce sujet. Il avait des réserves sur ce sujet. Oui. Depuis, nous avons eu l'avis du Conseil national d'éthique qui nous dit qu'il y a entre 2 et 4 000 jeunes femmes par an qui sont obligées de partir à l'étranger, qu'il y a en moyenne entre 3 et 11 jours pour obtenir le rendez-vous et que quelquefois ce sont ces deux semaines qui peuvent manquer, qu'on a une injustice territoriale et une injustice sociale. Donc au fond, c'est pas donner des droits nouveaux, mais c'est faire en sorte que le droit, qui est un droit fondamental à l'avortement et qui n'est jamais un plaisir, mais qui est un droit, puisse être exécutif, puisse être réel. Et donc ces deux semaines, c'est garantir aux plus fragiles d'entre celles qui sont concernées, la possibilité de pratiquer un IVG.
Merci beaucoup, Christophe Castaner, d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV 8h54.